Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, à quoi sont dus les séismes? Peut-on arriver à les prévenir ainsi que les tsunamis? Qu'est-ce que la tectonique des plaques? Comment et pourquoi les continents dérivent-ils lentement mais sûrement? Qu'est-ce qu'un rift? Aujourd'hui, Éclairage fait le point sur ces phénomènes passionnants. Et pour en parler avec nous, Paul Taponnier nous a rejoint en studio. Paul Taponnier, bonjour.
Bonjour.
Merci de bien vouloir nous éclairer sur ce sujet. Je rappelle à nos éditeurs que vous êtes membre de l'Académie des sciences depuis 2005, donc élu récemment, mais vous étiez déjà correspondant depuis 1994, il me semble.
C'est ça.
Donc vous êtes membre ici depuis quand même pas mal de temps. Vous êtes géophysicien à l'Institut de physique du globe de Paris, situé sur le campus de Jussieu, vous me le disiez à l'instant. Vous nous direz d'ailleurs deux mots sur vos travaux là-bas, sur en quoi consiste vos fonctions là-bas. Alors, sur votre fiche de présentation, propre à tous les académiciens, il est précisé que vous êtes spécialiste de la tectonique des plaques et que vous vous êtes particulièrement attaché à la compréhension de la déformation des continents. Et il est précisé que vos études portent sur les zones de collision et les zones de rift. Alors, première question, Paul Taponnier, qu'est-ce qu'une zone de collision et qu'est-ce qu'un rift?
Oui, alors, vous savez, les plaques bougent sans arrêt à la surface de la Terre. Il y a trois types de mouvements. Elles peuvent s'écarter, se rapprocher ou coulisser horizontalement l'une par rapport à l'autre. Donc, les zones de collision, ce sont des régions dans lesquelles on a deux plaques qui se rapprochent. On dit qu'elles convergent aussi. Et plus spécifiquement, ce sont les zones dans lesquelles les deux plaques qui se rapprochent sont des plaques continentales. Alors, vous savez que normalement, quand deux plaques se rapprochent, il y en a une qui passe sous l'autre. Et le phénomène le plus classique, c'est ce qu'on appelle la subduction, conduire dessous.
Mm-hmm.
C'est une plaque océanique qui plonge sous une plaque continentale ou sous le bord d'une autre plaque océanique. C'est dans ces régions-là que l'on observe l'essentiel des grands tremblements de terre du monde et aussi d'ailleurs l'essentiel du volcanisme dangereux. Le long de toute la côte de l'Amérique du Sud, par exemple, les plaques Nazca et Cocos s'enfoncent sous le continent. C'est vrai aussi de la plaque Pacifique dans tout le nord du Pacifique, sous l'Alaska, sous le Kamtchatka, sous le Japon. Il y a des très grandes zones de subduction dans le Pacifique occidental aussi, Marianne, Ryukyu, Philippines. Plus près de nous, un petit morceau du bassin ionien, c'est-à-dire la plaque africaine, s'enfonce sous l'arc hellénique, hein, sous la Grèce et la Turquie. De l'autre côté de l'Atlantique, on a aussi des petites zones de subduction comme celle des Caraïbes ou bien celle des îles Sandwich du Sud. Donc vous voyez, ce sont des régions de convergence assez rapides, mais en général dans lesquelles il y a un océan, enfin une croûte océanique, une lithosphère océanique qui s'enfonce sous autre chose. Quand un continent se situe sur la plaque qui s'enfonce,
oui,
ça se passe pas facilement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la collision, et c'est une zone dans laquelle on a des déformations énormes, formations de chaînes de montagnes.
Ce sont les montagnes,
voilà,
en fait.
Exactement. Alors ça, c'est les zones de collision. Les zones de rift, c'est le mouvement opposé. Donc, deux plaques s'écartent. Le phénomène le mieux représenté à la surface de la Terre, c'est celui qui conduit à la formation des océans. Au milieu des océans, de tous les océans du monde, on a ce qu'on appelle des dorsales médio-océaniques, qui sont en fait des zones de rift. Les deux plaques s'écartent, ça fabrique une vallée axiale. Il y a un autre type de volcanisme qui est le volcanisme basaltique, tel qu'on l'observe en Islande, par exemple, ou en Afar. Il existe des endroits où ces rifts arrivent à terre. Par exemple, dans la Corne de l'Afrique, hein, on a une jonction entre le rift du golfe d'Aden et le rift de la mer Rouge, qui se produit de façon un petit peu compliquée. Et on a là, dans la dépression de l'Afar, en Éthiopie et à Djibouti, des rifts océaniques, entre guillemets, qui fonctionnent à l'air libre, hein, comme en Islande. Il existe aussi des rifts continentaux, donc
oui,
ces deux morceaux de continents qui s'écartent. Il n'y a pas encore d'océan, mais il peut y avoir des grands lacs.
Des grands lacs,
hein,
comme
par exemple,
le lac Baïkal.
Baïkal en Sibérie, ou bien surtout les grands lacs, les lacs africains très étroits et très longs, comme le lac Tanganyika, le lac Nyassa, le lac Rodolphe, enfin, qui jalonnent le rift africain.
Mais alors, dans des millions d'années, ces lacs, comme le lac Baïkal ou le lac Tanganyika, deviendront des océans.
Oui, si la divergence entre les blocs continentaux et les plaques continue. Dans le cas du rift africain, ça fait longtemps que ça dure et ça n'a pas encore évolué, quoi qu'il y ait des grands lacs, parce que les mouvements sont relativement faibles. Enfin, c'est quelques millimètres par an, à tout casser peut-être 3 ou 4 millimètres par an, dans le nord de l'Éthiopie. Mais c'est vrai que la mer Rouge, par exemple, est un rift assez récent. Elle est envahie par un bras de mer qui est étroit. Avant ça, il y a eu des lagunes salines, un petit peu comme en Afar, donc des lacs salins qui se sont petit à petit élargis. Quand un rift est en formation, hein, moi je fais toujours une comparaison très simple. Vous tirez sur la clé de voûte d'une arche, elle s'enfonce, puisque vous écartez les montants. Et ça, si vous voulez, c'est le plancher du rift qui descend. Elle finit par s'enfoncer suffisamment pour que la mer envahisse tout. Le Baïkal est un rift
particulier,
important, on y reviendra peut-être, enfin c'est un sous-produit de la collision entre l'Inde et l'Asie. C'est un lac qui a quand même maintenant 700 km de longueur.
Qui représente 20% des eaux, des ressources mondiales en eau douce.
20%, oui, c'est un immense réservoir d'eau douce liquide. Il a 70 km de large dans sa plus grande largeur, 1620 mètres de profondeur, donc c'est quand même profond. Hein. Et il y a des mers qui sont moins profondes que ça. Mais il est serti à l'intérieur d'une grande masse continentale, c'est-à-dire que...
Oui, pourquoi alors voilà pourquoi ce rift en plein milieu d'un continent.
Parce que depuis... bon, vous savez, depuis, ça m'entraîne dans l'histoire de la collision Inde-Asie, qui a commencé il y a une cinquantaine de millions d'années. Mais depuis 10-20 millions d'années, l'Inde s'est enfoncée suffisamment loin dans le continent asiatique pour chasser des blocs tels que la Chine du Nord ou la Mongolie. Elle chasse ces blocs vers l'Est, et donc ces blocs se séparent du reste de la Sibérie. Hein. Donc, si vous voulez, c'est un contre-coup de la collision entre l'Inde et l'Asie. C'est pour ça qu'on a un rift isolé à l'intérieur d'un continent. Il n'est pas le seul d'ailleurs, hein. Il y a un rift comparable, mais qui lui est drainé. C'est-à-dire qu'il y a des fleuves qui s'en échappent, dont le fleuve jaune, et ses affluents, qui se situent entre Xi'an et Pékin, c'est-à-dire en plein milieu de la Chine du Nord. Tous ces rifts sont très actifs, hein. Il y a des failles qui bougent vite avec des grands séismes. Et ce rift chinois dont je parle, oui, qu'on appelle le rift du Shanxi ou Fenway, c'est un rift qui a produit certaines des très grandes catastrophes sismiques historiques de la Chine. Par exemple, le séisme de 1555 de notre ère. Séisme dit de Xi'an, hein, sans doute la catastrophe sismique la plus monstrueuse jamais enregistrée, puisque on dit qu'il y a eu 850 000 victimes.
Donc sur l'échelle de la magnitude ?
Magnitude 8 ou plus, on ne sait pas, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas d'instruments. Enfin, pas de vrais instruments.
Alors, vous parliez des rifts, et puis vous avez parlé du mot faille. Quelle est la différence entre rift et faille ? Est-ce qu'il y en a une ?
Alors oui, il y en a une. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus parce que je m'aperçois encore trop souvent que pour beaucoup, le mot faille, ça veut dire en fait crevasse, une espèce de gouffre béant dans lequel tombent veaux, vaches, cochons couvés, y compris les maisons, etc. Et donc, une faille, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas du tout ça d'une manière générale. Il existe des failles dans tous les environnements tectoniques, dans les rifts, dans les zones de collision, dans les zones de subduction et dans les zones de coulissage. Hein. Là, l'une des failles les plus célèbres du monde, c'est la faille de San Andreas en Californie, qui ne s'ouvre pas. Rien ne s'ouvre, rien ne s'écarte. Simplement, la plaque pacifique qui transporte une lanière d'Amérique du Nord côtière, une lanière de Californie, glisse vers le nord par rapport au reste de l'Amérique du Nord. Donc, les failles, ce sont, vous l'aurez compris, des plans, enfin des surfaces, que l'on assimile à des plans, quand elles sont simples, sur lesquelles se produisent des glissements de deux
donc
massifs de roches.
Une plaque qui monte et qui descend, si on veut parler consciemment.
Qui glisse horizontalement. Mm-hmm. Hein, donc, il y a trois types de failles, en fait, suivant la polarité de ce mouvement. Soit tout le mouvement se fait dans le plan horizontal. Il y a des failles dans lesquelles le mouvement se fait le long de la ligne de plus grande pente. C'est-à-dire, il y a un bloc qui descend et l'autre qui monte.
Oui.
Et alors, vous pouvez avoir un bloc qui descend par rapport à l'autre alors que vous écartez les deux blocs. Vous pouvez avoir un bloc qui monte par rapport à un autre alors que vous rapprochez les deux blocs. Et en fait, donc dans les rifts, c'est la première situation qui domine. Vous tirez sur la croûte et vous faites descendre certains blocs par rapport à d'autres avec des failles que l'on dit normales. Dans l'autre cas, vous poussez sur deux blocs de croûte et vous en faites monter un sur l'autre ou plusieurs sur d'autres et vous avez ce qu'on appelle des failles inverses. Je vais pas revenir sur l'étymologie de ces mots. Il faut savoir que les failles ont été définies par les mineurs, avec ces mots précis, par les mineurs au XVIIe, au XVIIIe siècle, dans les bassins houillers du nord de l'Europe, France, Angleterre, etc. En fait, le mot faille vient du mot faillir, qui fait défaut. Hein, d'accord. Donc les mineurs, c'était des gens très pratiques, qui suivaient un filon de charbon, et puis soudain, le filon, il faisait défaut. Alors, il n'existait plus, s'arrêtait. Alors, ils se sont aperçus que ces filons s'arrêtaient en général sur un mur de roche, qui était en fait une surface le long de laquelle le filon avait été décalé. Donc, on se mettait à chercher le filon plus haut, plus bas, à côté, etc. Et on finissait par le trouver, parce que les décalages n'étaient pas fantastiques, quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Et les failles les plus courantes dans les bassins houillés du nord de l'Europe, ce sont des failles normales. C'est des failles qui ont la géométrie que l'on connaît pour les failles normales. C'est pour ça qu'elles ont été appelées normales. C'était celles qu'on trouvait le plus fréquemment.
Classiques.
Voilà, les failles classiques, c'était normal. C'était des failles que nous disons normales aujourd'hui, qui traduisaient une extension qui s'est produite à l'époque, ou c'est peu après l'époque, ou pendant le dépôt des couches de charbon, c'est-à-dire à la fin de l'ère primaire, hein, puisque l'Autunien, tout ça, ce sont des dépôts qui datent de la fin de l'ère primaire. Alors, par opposition à cette définition de faille normale, on a ensuite compris ce que c'était qu'une faille inverse.
Oui.
Et puis, plus tard, on a compris qu'il y avait des failles qui pouvaient décaler seulement horizontalement des blocs. Ça, ce sont les failles dites décrochantes ou transformantes, comme la faille de San Andreas en Californie, mais plus près de chez nous, la faille nord-anatolienne ou la faille du Levant.
Alors, merci pour ce point de vocabulaire,
oui,
Paul Taponnier, mais c'est bien, au moins ça nous permet d'y voir plus clair et de pouvoir avancer dans le sujet. Oui. Alors, avant d'aborder comment les continents se déforment, vous allez pouvoir nous dire pourquoi ils se déforment, puisque à l'origine, il n'y a qu'un seul et même continent qu'on appelle la Pangée. Comment et pourquoi
Il y a plusieurs questions dans ce que vous dites là, parce que bon, il n'y a qu'un seul continent, la Pangée, à l'origine. Bon, ça c'est un instant dans l'histoire de la Terre. Hein. Il se trouve que au Permien, la plupart, parce qu'il en manque un, la plupart des continents ont été rassemblés pour former un continent unique qu'on appelait la Pangée. Mais avant ça, les continents étaient déjà séparés, ils s'étaient déjà rassemblés. En ce moment, on pourrait dire qu'il y a quatre continents qui sont rassemblés ou en train de se rassembler dans notre hémisphère. Il y a l'Eurasie,
oui,
l'Afrique, l'Arabie, l'Inde et même l'Australie. Enfin, Afrique-Arabie, on peut considérer que c'est encore le même continent parce qu'ils sont joints de part et d'autre de la faille du Levant. Ils sont adjacents. Donc, c'est une histoire qui se reproduit sans cesse.
C'est cyclique, en fait.
C'est un espèce de balai. Alors, les continents, c'est pas la déformation des continents au sens où on peut l'entendre de façon stricte. Les continents sont des objets qui sont sertis dans des plaques. Donc, il n'y a pas d'identité entre les plaques, les douze grandes plaques qu'on connaît et les continents. Hein. Une plaque s'est formée à la fois d'une croûte océanique et d'une croûte continentale. Les continents sont sertis, sont des morceaux de croûte sertis dans la lithosphère. Et donc les plaques sont définies à partir de la lithosphère, qui est la coquille fragile, froide, extérieure à la Terre, et qui est composée de deux, en général, il y a deux types de lithosphère, océanique, continentale. Donc ils se promènent, les continents, là où les plaques les emmènent. Bon.
Donc il y a toujours eu ces 12 plaques à l'origine.
Ça a changé aussi, parce que les plaques, la géométrie des plaques se modifie. Il y en a 12 aujourd'hui, il y en avait plus avant. Il y a des plaques qui ont complètement disparu. Par exemple, la plaque Farallon a presque complètement disparu. Elle faisait partie, elle était adjacente à la plaque Pacifique, enfin entre la plaque Pacifique et la plaque Amérique du Nord.
Parce qu'elle est pratiquement passée sous le manteau.
Oui, elle est engloutie complètement par subduction sous le bord de l'Amérique. Bon, il y a eu, vous savez, des grands océans, des grands morceaux de plaques océaniques qui ont disparu complètement, par exemple entre l'Inde et l'Asie. La partie de la plaque indienne qui était couverte par l'océan Tétis a disparu corps et bien. On n'en trouve plus qu'une trace, une suture. Et tout ça ne s'arrête jamais. Donc, si vous voulez, ça, c'est ce que Wegener avait appelé la dérive des continents, qui ensuite a été placée dans un cadre, dans le cadre actuel que nous y connaissons, c'est-à-dire la tectonique des plaques. La déformation des continents, c'est plutôt ce qui se passe lorsque la tectonique des plaques soit est en train de fabriquer, de diviser un continent en deux, Donc, par exemple, on pourrait dire le rift africain, le Baïkal, même le Graben-Rhénan, plus près de chez nous, ou la mer du Nord, sont des exemples de déformations continentales. Avant, il n'y a rien, et puis on fait apparaître une fissure, enfin un rift, qui est un fossé d'effondrement, qui se petit à petit se remplit de lacs, ensuite de lagunes, puis de mers. Donc ça, c'est l'apparition, c'est la déformation. On est obligé de déformer un continent pour faire apparaître une nouvelle frontière de plaques. Et puis l'autre exemple de la déformation du continent, c'est, nous y revenons, c'est la collision. Deux continents sont mis face à face par la tectonique des plaques. Par exemple, aujourd'hui, l'Australie est en train de commencer à emboutir toute l'Indonésie. D'accord ? Donc elle est portée par une sous-plaque qui est la plaque australienne. Plaque, on dit souvent la plaque indo-australienne parce que le mouvement entre les deux n'est pas très grand. Et ce continent qui est une grande île est en train de rencontrer d'autres lambeaux de continents au nord qui font partie, qui sont des dépendances de la plaque asiatique. On est là dans le cas de collision commençante. Nous avons une collision consommée en cours très voisine qui est celle entre l'Inde et l'Asie, qui a été un de mes sujets de prédilection, un sujet d'étude.
Sur laquelle vous avez réalisé une théorie et que vous avez brillamment réussi.
On a beaucoup travaillé là-dessus, on a compris des choses. Et donc ça, c'est une collision qui se poursuit depuis 50 millions d'années et qui a entraîné des déformations à l'intérieur du continent asiatique extraordinaires. On pourrait croire que quand deux continents se rencontrent, c'est ce qui se passe fondamentalement, quand deux continents se rencontrent, c'est que le continent qui est sur la plaque qui plonge, il n'a pas envie de plonger. La croûte continentale est trop légère. Sa vocation n'est pas de s'enfoncer dans le manteau, alors que la lithosphère océanique, qui est plus dense que le manteau sous-jacent,
elle va plonger.
Elle plonge, on pourrait dire presque naturellement. Il faut déclencher le phénomène. On ne sait encore pas bien comment ça se passe, mais une fois que ça a démarré, c'est quelque chose qui s'auto-entretient parce qu'il y a un équilibre des forces qui fait que, sans arrêt, le panneau plongeant de lithosphère océanique froid s'enfonce dans la sténosphère qui est constituée du même matériau mais plus chaud. Donc ce qui est froid descend et on a là des forces, un bilan de forces qui est positif, qui entretient le mouvement.
Alors que fait ce alors, continent,
continent
qui ne veut pas descendre?
Il n'a aucune envie de descendre. La croûte reste en surface. À l'endroit même où l'océan a disparu, on observe ce qu'on appelle une suture, c'est-à-dire des lambeaux de roches océaniques qui traînent en surface, qui sont remontés, qui ont chevauché la plaque descendante. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que la croûte continentale est scalpée. C'est-à-dire que la subduction peut continuer. C'est ce qui se passe dans l'Himalaya depuis 50 millions d'années. Le manteau de l'Inde a continué à s'enfoncer sous le bord de l'Asie, mais la croûte indienne n'a pas suivi. Elle s'est fait scalper, détacher par rapport au manteau, et donc l'Himalaya tout entière est construite d'écailles d'Inde qui se chevauchent les unes les autres.
Donc avant l'Himalaya, c'était un océan.
Avant l'Himalaya, il y avait un océan. Il y a maintenant une suture qui est au nord de la chaîne himalayenne, puisque la chaîne himalayenne s'est construite, c'est la suture de l'Indus et du Tsangpo, qui est suivie par les deux grands fleuves qui s'échappent de l'orogène vers le sud. Et la chaîne himalayenne est construite par des morceaux d'Inde, des écailles d'Inde qui se sont empilées les unes sur les autres, depuis au moins 30 millions d'années. Alors, le problème, c'est que quand une collision de ce genre se produit, vous savez, la plaque indienne, avant la collision, au moment de la subduction, s'enfonçait très rapidement sous l'Asie. C'était de l'ordre des vitesses qu'on observe à l'heure actuelle, c'était même un peu plus rapide que les vitesses qu'on observe à l'heure actuelle en Alaska, au Chili ou ailleurs, au Japon, 10 cm par an. Lorsque la collision est survenue, la vitesse de convergence entre la Sibérie et l'Inde a été divisée presque par deux, on est passé à 5 cm par an. Mais l'Himalaya, aujourd'hui, n'absorbe que 2 cm de cette convergence. Donc, vous voyez, il y a encore quelque chose qui manque au bilan. En fait, la collision a fait se déformer le bord nord de l'Inde, 2 cm par an, fabrication de la plus haute chaîne de montagnes du monde, mais elle a déformé aussi l'Asie. Et donc, depuis le début de la collision, l'Inde, qui porte son Himalaya, s'est enfoncée vers le nord, s'est déplacée vers le nord de 2000 km, et tout ceci s'est produit avec la déformation profonde de tout le continent asiatique. Alors, autre chaîne de montagnes dont les noms sont plus exotiques, qu'on connaît moins, le Kunlun, le Chilien Shan, le Tien Shan. Tien Shan, c'est joli quand même, ça veut dire les montagnes du ciel, c'est joli en chinois. Le Tien Shan, c'est une chaîne qui est en plein milieu de l'Asie centrale, qui est deux fois plus longue que les Alpes, deux fois plus haute, à peu près. Enfin, il y a des sommets un peu plus de 7000 mètres. Et il y a aussi des très grandes failles de coulissage horizontal, comme la faille de San Andreas, sauf qu'en Asie, il y en a une demi-douzaine de ces failles-là. Donc, si vous voulez, toute la face de l'Asie a changé Et ça, c'est la déformation des continents au sens où nous l'entendons.
Alors, on marque une courte pause, Paul Taponnier. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission sur la dérive des continents et sur la déformation des continents. À tout de suite.
Qui porte l'habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui est invité en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui s'exprime en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
En habit vert ?
Le portrait ?
Le parcours ?
La rencontre ?
Des académiciens des 5 académies.
En direct ou en médiathèque ?
Sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Paul Taponnier, membre de l'Académie des sciences, géophysicien. Alors avec vous, Paul Taponnier, nous parlons de ces continents qui dérivent, comment ils dérivent. Et nous nous sommes quittés sur l'Himalaya, la formation de l'Himalaya. À quelle vitesse se déplaçaient les plaques, les 12 plaques qui vont former des montagnes ou au contraire vont plonger les unes sous les autres ?
Alors, ces vitesses sont connues assez bien depuis une trentaine d'années. En fait, la tectonique des plaques, c'est une théorie cinématique.
C'est la cinématique.
La première chose, si vous voulez, que la tectonique des plaques a aussi, en géologie, créé une zoologie des environnements tectoniques, si vous voulez. Hein. On parle de sutures, de zones de rift, zones de subduction, de collision, tout mot que nous avons employé jusqu'à maintenant. Mais il faut savoir que l'aspect le plus prédictif de la tectonique des plaques, c'est la cinématique. C'est l'idée que sur une Terre sphérique, dont le volume ne change pas et dont la surface est constante, tous les mouvements des plaques, évidemment, se combinent. Et si deux plaques convergent en un endroit, il faut qu'il y en ait deux autres qui s'écartent, etc. Et le tout à somme surfacique nulle. Donc, les premiers grands modèles, d'ailleurs, les académiciens célèbres ici qui sont impliqués dans la naissance de cette théorie, Xavier Le Pichon, par exemple, les premiers grands modèles à 12 plaques, etc., à 6 plaques, bon, étaient des modèles dans lesquels on fermait des circuits de vitesse. Et ces vitesses, assez rapidement, ont été calculées, en particulier grâce à un instrument assez fantastique, qui est le marquage de la croûte océanique par les changements, les inversions de polarité du champ magnétique terrestre. Et aussi grâce au mouvement, ou à la direction du glissement que l'on arrivait à sortir des séismes. Alors les vitesses varient entre, disons, quelques... Pour les plaques, disons, entre un demi-centimètre par an, et ça va jusqu'à une quinzaine de centimètres par an pour fixer les idées.
Quelles sont les plaques les plus actives ?
Disons, l'ordre de grandeur des vitesses, c'est le centimètre, quelques centimètres, voilà. Vitesse à laquelle poussent vos cheveux, enfin, c'est une comparaison classique. Alors, les vitesses les plus rapides s'observent dans le Pacifique, où l'on a à la fois la dorsale est-pacifique qui s'ouvre à des vitesses qui sont proches de 15 cm par an. Donc la plaque Nazca, par exemple, s'éloigne de la plaque pacifique à peu près à 15 cm par an au sud et au nord de l'île de Pâques. Et puis on a aussi tout le long de ce qu'on appelle, depuis les livres de géographie et de géologie de nos classes de quatrième, la ceinture de feu du Pacifique. Je n'aime pas beaucoup cette expression. Enfin,
pourquoi,
ça existe. Non, mais c'est juste parce qu'il y a beaucoup de volcans, etc. Donc, sur toute la périphérie de l'océan Pacifique, qui est le plus grand océan de la Terre, les plaques océaniques variées, donc plaque Pacifique, plaque Philippine, plaque Nazca, plaque Cocos, plaque Juan de Fuca, s'enfoncent. Et elles le font souvent à des vitesses qui sont voisines de 8 et 10 cm par an. Hein, c'est le cas sous l'Alaska, sous les Aléoutiennes. C'est le cas Kamtchatka-Kouril, Japon, Marianne, Amérique du Sud, avec des variantes. Bon, voilà, pour donner des exemples. Donc ça, c'est les vitesses les plus rapides. Ensuite, les vitesses plus lentes, l'Europe s'éloigne de l'Amérique du Nord à environ 2 cm par an. L'Afrique s'éloigne de l'Amérique du Sud à environ 3 cm par an. Voilà. Ça, c'est un océan un petit peu plus paresseux que le Pacifique. Ce qu'on appelle une dorsale. Alors, on classe les dorsales en dorsale lente, dorsale rapide. Dans l'océan Indien, on a des mouvements qui sont du même ordre de grandeur, hein, pour rendre les choses claires. Il y a des zones de subduction qui bougent moins vite. Par exemple, la zone de subduction Caraïbe, c'est de l'ordre de 2 cm par an. La zone de subduction Hellénique, c'est 3 cm par an, quelque chose comme ça.
Mais alors, quels sont leurs moteurs à ces plaques qui bougent à des vitesses différentes ?
Le moteur est encore un sujet débattu. Le moteur du mouvement des plaques, enfin, je veux dire, au sens purement mécanique du terme, on comprend assez bien sur le plan général. Le moteur, si vous voulez, ultime du mouvement des plaques, c'est la convection dans le manteau. Vous savez ce que c'est que la convection? Je rappelle brièvement qu'on fait bouillir le lait le matin, le lait qui est chauffé à la base de la casserole monte, et puis il redescend sur les se refroidit en surface, il redescend.
Il fait de fontaine un peu.
Voilà. Donc il y a des sources de chaleur dans le manteau. Le manteau est chaud, la température à l'interface noyau-manteau est de l'ordre de 5000 degrés. En surface, la température moyenne de la Terre, c'est entre 0 et 20 degrés. Et donc, on a un échange de chaleur qui se produit par transfert de matière entre le manteau chaud et la surface qui est froide. Donc, on a, si vous voulez, du manteau chaud qui monte, qui se refroidit et qui replonge. Une fois qu'il est refroidi et plus dense, il replonge. Et donc, tout ça anime des grandes cellules dites de convection. Et les plaques, bien sûr, au-dessus de ce manteau qui convecte et qui se brasse à des vitesses qui sont proche dans le manteau supérieur, peut-être un petit peu supérieur à, oui, ça doit être la dizaine de centimètres par an, peut-être la vingtaine. On comprend pas très bien encore le couplage entre la lithosphère et le manteau. Ces plaques, elles bougent forcément. Alors, les plaques rentrent dans le circuit de la convection parce que quand vous avez, là où vous avez du manteau chaud, par exemple, sous les dorsales médio-océaniques, le manteau monte, il est chaud, il garde sa chaleur d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'il fond adiabatiquement, on finit par passer la pression sous laquelle la fusion partielle est possible. Et ceci crée une espèce d'intumescence, les dorsales océaniques sont plus hautes que les plaines abyssales de part et d'autre. On peut voir les plaques océaniques comme des grands glaciers qui s'écoulent sur les flancs de cette intumescence. Okay? Donc les dorsales, si vous voulez, les plaques s'écartent l'une de l'autre au niveau de l'axe des dorsales, en particulier parce que chaque plaque glisse sur une pente, si vous voulez. Bon. Les plaques se refroidissent en s'éloignant de la dorsale et elles deviennent de plus en plus denses. Et lorsqu'une plaque plonge dans une zone de subduction, elle s'enfonce, je l'ai dit tout à l'heure, dans un manteau. La plaque océanique, c'est du basalte, du gabbro et des péridotites. C'est à peu près la même composition que le manteau supérieur. Et donc, elle s'enfonce dans un matériau qui a la même constitution sur le plan chimique, en moyenne, mais qui est plus chaud, qui n'a pas la même densité. Donc, une plaque plongeante, c'est quelque chose de lourd relativement à son environnement qui, sans arrêt, a tendance à s'enfoncer plus. Donc ça aussi, si vous voulez, c'est un moteur du mouvement des plaques. Donc comprenez que les plaques ont leur moteur propre, c'est pas exactement correct, parce que ça fait partie du cycle de la convection. On ne sait pas très bien comment la convection à la base des plaques est couplée aux plaques, mais elle est couplée. Et en fait, c'est ce genre de question qui n'est pas encore complètement résolu.
Alors que la convergence est quand même tout à fait admise, puisque vous l'avez très bien expliqué. Il y a encore
des
choses.
La cinématique est très bien comprise. La cinématique des mouvements est très bien comprise. Mais la dynamique ne l'est pas encore tout à fait. D'ailleurs, nos collègues qui sont des experts de mécanique des fluides, comme à l'Institut physique du Globe, le labo de mon ami Claude Jopard, ce sont des experts de la convection dans des milieux fluides divers et variés. Ils explorent tous les espaces de nombre de relais possibles pour ce phénomène. Mais on n'a encore jamais réussi à vraiment reproduire expérimentalement une convection avec un couvercle rigide mu par cette convection. Donc la convection terrestre avec la tectonique des plaques. Ça fait partie encore des objectifs futurs qu'on aimerait bien résoudre. Voilà, alors, pour revenir aux vitesses, on a maintenant bien sûr des techniques très performantes. J'ai pas complètement décrit la manière dont on avait réussi à calculer ces vitesses. Il y a d'abord l'idée que les vitesses peuvent pas être n'importe quoi sur une Terre à surface constante. Mais ensuite, il nous faut une échelle de temps. Alors, on a, grâce aux anomalies magnétiques, en fait, tout vient des anomalies magnétiques du fond océanique. Rapidement, après, ou en même temps que la découverte et l'essor de la tectonique des plaques, on a été capable de dater les anomalies magnétiques sur le plancher d'océan. Donc, on a été capable de calculer des vitesses moyennes d'ouverture des océans.
Donc, tout ça est très récent.
Tout ce dont je vous parle, la tectonique des plaques, c'est pas vieux. C'est une théorie qui est née à la fin des années 60. Donc c'est un petit peu plus de 35 ans, qui ne s'est imposé, qui a fait son entrée fracassante dans le milieu scientifique à un congrès de l'American Geophysical Union célèbre en 1971, qui a suscité l'adhésion instantanée de tous les géophysiciens de la planète, mais une résistance assez coriace de la part de beaucoup de géologues. Il faut savoir que la tectonique des plaques est sortie de la géophysique océanique, et non pas des chaînes de montagnes qui étudiaient les géologues depuis 200 ans. Donc c'est assez frustrant de voir des choses de ce genre. Et pendant toutes les années 70, on peut dire qu'il y a eu un combat aujourd'hui qu'on peut qualifier d'arrière-garde entre certains géologues et les géophysiciens, mais c'est une théorie qui a mis quand même une demi-douzaine d'années à s'imposer. Donc vous voyez, c'est très récent, la tectonique des plaques acceptée par beaucoup, ça a 30 ans. C'est la grande révolution scientifique, enfin l'une des très grandes révolutions scientifiques de la fin du siècle dernier. En sciences de la Terre, c'est la révolution scientifique, puisque avant, on accumulait des observations, on n'avait pas vraiment compris. Donc ces échelles de temps, cette manière de calculer vitesse des plaques, tout ça, c'est vrai, c'est pas vieux. Mais on avait encore à notre disposition, il y a quelques années seulement, que des modèles qui donnaient des moyennes sur des millions d'années. Et récemment, avec le développement des techniques de géodésie spatiale, on est
donc
maintenant...
Donc le GPS
GPS, oui, il y en a d'autres.
Donc ce sont les outils qui nous permettent maintenant de mesurer ces vitesses.
Mais disons, le GPS est sans doute la plus performante de toutes ces techniques.
Ce qui est très particulier, parce que pour nous, auditeurs et grand public, le GPS, pour nous, ça nous sert surtout à nous guider dans les petites rues grandes villes.
Le GPS, si vous voulez, c'est un instrument de positionnement, Global Positioning System. C'est un instrument de positionnement qui permet, le principe est très simple, vous interrogez une galaxie de satellites qui sont là en permanence, et un calcul de la distance de votre point d'interrogation, c'est-à-dire votre voiture ou n'importe quel récepteur à surface de la Terre, en calculant toutes les distances entre ce point et la galaxie de satellite, on arrive à se positionner.
C'est très impressionnant.
C'est très impressionnant.
De voir que, justement, il peut mesurer un centimètre de déplacement d'une plaque.
Oui, alors, vous positionnez pas votre voiture au centimètre près, pas encore, mais enfin, c'est suffisamment précis pour que on ne loupe pas les taxis utilisent ça maintenant de façon courante. Et donc, en positionnement à la surface, c'est de l'ordre du mètre. Donc, ce que nous savons faire en géodésie spatiale, en positionnement relatif maintenant, ce sont des positionnements au centimètre ou à quelques millimètres près, voire même quelques dixièmes de millimètre près. Mais ça, il faut bien savoir que c'est la position relative entre deux stations GPS au sol. C'est-à-dire que on est capable, avec des campagnes de surveillance répétées, par exemple, on revient tous les ans, mesurer un réseau de bornes. Donc il y a des bornes qui existent, il pourrait y en avoir une dans la cour d'académie, là, et puis une autre au Panthéon. Et on est capable de mesurer les variations entre la distance coupole de l'académie, coupole du Panthéon, à quelques millimètres près, le centimètre facilement, quelques millimètres près, simplement en posant les instruments une fois par an, tous les ans. On sait faire encore mieux en laissant des stations qui fonctionnent en continu. Où là, on a des séries temporelles denses, les fonctions. Donc, on est capable de diminuer les incertitudes de positionnement à quelques dixièmes de millimètre. Alors, évidemment, en sciences de la Terre, c'est un instrument fantastique. Vous mettez une station à Bangalore et à Delhi, en Inde. Vous en mettez une à Pékin, une à Irkoutsk, une à Moscou. Et vous connaissez le mouvement de l'Inde par rapport à la Sibérie et à la Chine.
Mais c'est pas encore le cas pour le moment.
Si, c'est tout à fait le cas.
Donc, on utilise le GPS de manière courante.
C'est tout à fait le cas. Le nombre. Alors, une station continue, il faut savoir que c'est dur à maintenir. Ça nécessite. C'est un instrument d'observatoire. Moi, je suis à l'IPA Institut de Paris, nous sommes très préoccupés par les observatoires. Ce sont des choses essentielles, mais il faut être capable de maintenir des instruments en temps réel, il faut être capable d'interpréter les données, les volumes gigantesques de données qui s'accumulent. Et pour étudier la Terre, c'est un must. On ne peut pas échapper à ça, c'est fondamental. Donc, les stations continuent, il y en a encore... il y en a moins qu'on ne souhaiterait. Il y a des grands pays ou des grands États qui se sont dotés de réseaux extrêmement performants. Le Japon a plus de 1000 stations GPS continues qui permettent de surveiller sans arrêt les déplacements. On y reviendra, c'est un instrument d'avenir, peut-être pour la prévision des séismes.
En Californie,
il y a aussi des réseaux continus de stations GPS qui se densifient sans arrêt. En France, on en a quelques-unes. Sur l'ensemble de l'Asie, on n'en a pas assez. Mais enfin, on en a assez pour comprendre le mouvement des grands blocs. D'ailleurs, paradoxalement, on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, le mouvement de l'Inde est de l'ordre tel qu'on le calcule à petite échelle de temps, c'est-à-dire depuis que les stations continues existent, moins de 10 ans, les stations GPS. Le mouvement de l'Inde par rapport à la Sibérie stable, on a encore quelques difficulté à définir ce référentiel sibérien stable parce qu'il n'y a pas beaucoup de stations continues, mais il est compris entre 35 et 40 mm par an. Vous voyez, donc c'est plus petit que les 50 mm en moyenne qui étaient prédits par les modèles de tectonique des plaques tels que Nouvelle One. Et on ne comprend pas très bien cette différence. Il est possible qu'il y ait, alors, même en tenant compte d'une zone de frontière de plaques naissantes qui se situe au sud de Ceylan dans l'océan Indien et qui sépare une sous-plaque indienne qu'on appelle la plaque Capricorne de la plaque qui porte l'Inde continentale, on ne comprend pas très bien cette différence. Il est notable aussi de voir que l'Arabie, qui est une plaque continentale, séparée de l'Afrique par la mer Rouge et le golfe d'Aden, et séparée de l'Eurasie par la chaîne du Zagros, la chaîne qui borde sud de l'Iran, cette plaque-là va moins vite aussi que les prédictions faites par les modèles de tectonique des plaques à l'échelle des millions d'années. Est-ce que c'est parce que ces deux plaques sont en collision ? Enfin, il y a là un problème. Mais on mesure bien, maintenant, à peu près bien, les mouvements des blocs. On mesure bien aussi, on retrouve les mouvements aux frontières des grandes plaques, à peu près, avec quelques surprises. Ce qu'on mesure beaucoup moins bien, c'est la déformation distribuée à l'intérieur des continents où il y a beaucoup de failles différentes.
Alors, à l'issue de ces phénomènes de convection, de subduction, donc ce déplacement de ces plaques, les conséquences, ce sont les séismes. Donc je vous propose de faire une pause, Paul Taponi, on se retrouve tout de suite après pour aborder ce thème des séismes. À tout de suite. De notre émission Éclairage en compagnie de Paul Taponnier, géophysicien et membre de l'Académie des sciences. Alors pour cette troisième partie, Paul Taponnier, nous allons pouvoir évoquer les conséquences de ces déplacements de plaques, qui sont donc les séismes et les tsunamis. Alors Paul Taponnier, où se situent les séismes pour commencer ?
Oui, pour commencer, vous me présentez toujours comme géophysicien, mais je voudrais dire que la discipline, mon sujet d'étude, qui est la tectonique, se situe à la frontière entre la géologie, la géophysique et la géochimie. Enfin, la géologie, c'est un petit peu... Je suis assez fier d'être géologue, d'abord. Et ce n'est pas un mot péjoratif. La géologie, c'est la mère de toutes ces disciplines. Avant d'étudier la Terre et de la comprendre avec des méthodes physiques ou chimiques, il faut savoir l'observer. Et l'observation de la Terre, c'est d'abord la géologie. Donc voilà, c'est un petit encart là. Alors, pour revenir au séisme, évidemment, la conséquence à l'échelle de nos vies, de tous ces mouvements qui ne s'arrêtent jamais...
Concrète de ces déplacements.
Voilà, c'est la façon concrète. Bon, les plaques bougent tout le temps, elles ne s'arrêtent jamais, mais la manière dont les mouvements se produisent aux frontières des plaques ou sur les grandes failles qui séparent des blocs à l'intérieur des continents, ce sont les séismes qui sont des moments soudains pendant lesquels une déformation élastique qui s'accumule pendant des dizaines d'années, des centaines d'années, voire des milliers d'années, se relâche. Alors, il faut savoir que, si vous voulez, la plaque Pacifique et la plaque Amérique du Nord on définit une vitesse, c'est ce dont on vient de parler, qui est une vitesse moyennée,
oui, hein,
sur des dizaines, des centaines, des milliers d'années, voire des millions d'années. Cette vitesse, c'est effectivement la vitesse que l'on mesure si on s'éloigne très loin de la frontière de plaque ou de la faille, mais ce n'est pas ce qui se passe sur la faille. À de rares exceptions près, il y a des segments qui glissent de façon continue, mais ce n'est pas le cas général. D'habitude, en surface, les failles sont bloquées par la friction.
Donc en fait, elles vont se tordre et au bout d'un moment, voilà, ça va lâcher, ça va céder.
Toute la croûte autour de la zone de faille se tord, un petit peu comme si vous preniez une règle en plastique et puis vous la tordez,
etc.
Et à un moment donné, la règle en plastique, elle casse. Et disons, ça c'est le séisme. Sauf que cette analogie n'est pas très appropriée, parce qu'une fois que vous avez une règle en plastique cassée, bon, elle est cassée, il y a deux morceaux, là, si vous voulez, une fois que la faille a bougé, les lèvres de la faille se ressoudent, se bloquent de nouveau à cause de la friction, les plaques continuent à bouger, de nouveau, on va avoir cette torsion des roches au voisinage de la faille, et au bout d'un certain temps, les roches lâcheront de nouveau, on aura un autre séisme.
Alors, donc tous les séismes ont lieu sur les failles,
alors,
en fait.
Alors, tous les séismes ont lieu sur les failles, et c'est en étudiant en détail les failles que l'on comprend, et que l'on peut espérer comprendre encore mieux les séismes. Cet intervalle de temps qui sépare un séisme d'un autre sur une faille est ce qu'on appelle le cycle sismique. Donc vous voyez, il y a une phase assez longue de chargement de la faille, dont on tend un ressort, jusqu'à la limite où la faille se met à glisser. Alors c'est ça qu'on essaye de comprendre sur beaucoup de failles. On essaie de comprendre au fond la personnalité de chaque faille, si vous voulez. Quel est le cycle sismique sur tel ou tel segment de la faille de San Andreas ou de la faille nord-anatolienne, de la faille du Levant, ou des grandes failles que j'étudie, que nous étudions dans mon groupe en Chine, ou du chevauchement frontal himalayen, qui est une très grande faille sismique. Et c'est l'étude géologique de ces failles, la manière dont le géologue est capable de remonter dans le passé, pour décrire l'histoire récente des mouvements sismiques, qui est finalement l'instrument le plus important au début.
C'est un vrai travail d'enquête à partir des roches.
Voilà, oui, des roches superficielles. C'est-à-dire que vous pouvez mettre tous les instruments que vous voulez sur une faille pour mesurer avec une finesse extrême son comportement actuel, mais vous êtes privé de toute une période, de toute une information temporelle qui est à la bonne échelle de temps. Sur certaines failles, il va falloir mettre des GPS pendant 2 siècles, voire 3 siècles, avant qu'elles ne bougent. Donc, vous voyez, c'est un investissement qui est très long. Sur d'autres, c'est peut-être 1000 ans. Donc, on n'y est pas encore. Alors, il y a donc toute une série d'informations très importantes sur la durée du cycle sismique, sur la taille des séismes que la faille est capable de fabriquer. Et bien sûr, il y a un lien étroit entre la vitesse moyenne d'une faille. Donc, c'est très important de connaître la vitesse.
Entre la vitesse et la magnitude.
Et la taille du séisme, le temps qui sépare de séisme. Pour donner un exemple clair, sur la faille de San Andreas, disons, tout près de Los Angeles, on sait que la vitesse moyenne de la faille, c'est entre 2,5 cm et 3 cm par an. On sait que le dernier séisme s'est produit en 1857. Ça fait donc à peu près, pour ces idées, 150 ans. Il y a donc à 3 cm par an, presque 5 mètres, enfin 4,50 m de mouvement qui se sont accumulés. Les derniers séismes le long du désert de Mojave ont fabriqué des déplacements du même ordre. La durée du cycle sismique, c'est de l'ordre de 150 à 2 siècles. Donc on est en fait assez près du Big One. De nouveau, il risque d'y avoir un grand séisme comparable à celui de Fort Tejon en 1857. Alors, tout ça est un peu vague, mais ça donne quand même des informations extrêmement importantes sur l'ordre de grandeur de la durée qui sépare un grand séisme du suivant. Alors, comment est-ce qu'on obtient ces informations? Comment sait-on, par exemple, alors, dans certains cas, on a des informations historiques. Par exemple, on sait que, peu après l'arrivée des 49ers en Californie, la ruée vers l'or, etc., il y a eu un grand séisme en 1857 sur la partie sud de la faille de San Andreas. Mais ça c'en est un. Donc, il faut ensuite remonter le temps. Et très rapidement, on sort de l'échelle de temps qui est accessible à l'histoire. Même nos collègues chinois qui se targuent d'avoir un calendrier sismique de 3000 ans, qui débute à moins 1100 avant Jésus-Christ à peu près, ont en fait un catalogue sismique qui est très incomplet. Il faut savoir que l'amnésie envahit tous les catalogues sismiques au fur et à mesure qu'on recule dans le temps, puisque avant l'invention du sismographe, les Chinois se targuent aussi d'avoir un sismographe qui a été inventé il y a 2000 ans. C'est simplement, vous savez, c'est un piédestal sur lequel vous avez 12 dragons qui tiennent chacun une petite boule dans leur gueule, et puis en dessous vous avez 12 grenouilles ou 12 crapauds qui attendent que le dragon cache sa bille. Et alors effectivement, cette crache sa bille, c'est un instrument qui faisait usage d'une observation qui est encore valable, qui est ce qu'on appelle la polarité des vibrations, des premières arrivées, des ondes les plus rapides qui arrivent les premières, qui sont les ondes P. sont polarisées comme d'ailleurs les ondes sonores avec lesquelles je vous parle, c'est-à-dire que les vibrations se font dans la direction de propagation. Donc, lorsque le dragon recevait une pichenette, c'était dans la bonne direction. Et ensuite, on dit que l'empereur envoyait des émissaires à cheval dans la direction où étaient tombées les boules. Et les émissaires finissaient par se rencontrer
dans la région sismique. Un sismographe à dragon, en fait. Hein.
C'était un sismographe à dragon, mais c'était très imprécis. Ça mesurait pas ni l'amplitude des ondes, ni leur contenu fréquentiel, ni les différents types d'ondes qui arrivent. Vous savez, là, c'est un sismographe, c'est un monde, hein, c'est très riche. Nos collègues sismologues font des merveilles avec ça. Ils sont capables de déterminer les mécanismes de tous les séismes le monde entier, de savoir dans quelle direction ça s'est propagé, à quelle vitesse, enfin c'est presque de la magie. Mais donc, pour en venir à ces calendriers sismiques, les calendriers chinois, très rapidement, deviennent très pauvres en informations, hein, comme en Iran. Je parle pas de la France, parce qu'en France, hélas, un des grands accomplissements de la Révolution française, c'était de brûler tous les manuscrits qu'il y avait dans les châteaux et les monastères.
Toutes
et donc,
les indications
pratiquement, on sait presque rien de ce qui s'est passé avant 1789 en France, à quelques exceptions près quand même. On sait qu'il y a eu un grand séisme à Bâle en 1354. On connaît aussi des séismes anciens en Provence ou dans les Pyrénées. Mais l'histoire n'est pas très prolixe en information. Même au Moyen-Orient, où il y a des séismes qui remontent jusqu'à la Bible, il y en a très peu, d'accord ? Donc c'est une source d'information qui est utile quand on l'a, mais qui n'est pas très fiable.
Alors, est-ce que en connaissant maintenant la vitesse de déplacement de ces plaques, est-ce que cette vitesse, en la connaissant, peut nous permettre de prédire, entre guillemets, la magnitude des séismes potentiels ?
Elle ne permet de le faire. En fait, elle ne permet pas vraiment de le faire. Elle permet de prédire le temps de retour d'un séisme si l'on connaît le type de séisme que la faille fabrique à un endroit donné. J'essaye de lier ces deux aspects. La méthode qui permet de reculer dans le temps, au-delà de l'histoire, c'est bien sûr d'essayer de décrypter l'information sismique dans les sédiments qui sont sous la surface et qui ont enregistré, si vous voulez, ces séismes du passé. Typiquement, quand vous avez repéré une faille qui traverse un petit bassin sédimentaire, l'idée, c'est de creuser une tranchée à travers la faille, le plus profond possible, et vous espérez que vous allez trouver les traces des séismes du passé fossilisés par des dépôts plus récents. Alors, c'est une technique qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant, qui a été appliquée en Californie, au Japon, en Chine, dans beaucoup d'endroits, y compris en Méditerranée, qui ne marche bien que si le site est bien trouvé, bien choisi. C'est-à-dire qu'il y a en fait très peu de sites qui conservent un enregistrement précis des séismes du passé. Et dans ces sites, il faut encore avoir un enregistrement où l'on est capable de dater les séismes du passé. Donc il faut des dépôts qui soient riches en matière organique, qu'on puisse dater par exemple avec le carbone 14, ou avec d'autres techniques qui permettent de remonter plus loin dans le temps. Avec le carbone 14, dans la pratique, vous savez, on ne peut pas remonter à moins de 30 000 ans, ça devient difficile au-delà. Ceci dit, il existe des cas où on a réussi à reconstruire des séquences sismiques du passé sur des temps assez longs. Par exemple, au Liban, nous avons, dans les 5 dernières années, réussi à établir des séquences sismiques qui sont longues de plus de 12 000 ans. Et on a, en gros, un séisme tous les 1000 ans. Donc la faille, si vous voulez, du Levant, hein, qui traverse le Liban, qui prend le nom de faille de Yamounet, au bord de la Bekaa, entre la Bekaa, la plaine de la Bekaa et le mont Liban, régions qui sont, hélas, à l'heure actuelle, d'actualité. Cette faille, dans un petit bassin qui s'appelle le bassin d'Yamounet, qui a donné son nom à la faille, localement, produit un grand séisme tous les 1000 ans, à peu près. Hein, on déchiffre la manière dont le sol est déformé, puis scellé par des couches qui contiennent des charbons. Le dernier de ces grands séismes s'est produit pendant les croisades, pendant la deuxième croisade, en l'an 1202. C'était il y a longtemps.
C'est-à-dire que ça pourrait revenir dans pas très longtemps
maintenant. C'était il y a 8 siècles. Ce séisme est sans doute à magnitude 7,5. Donc c'est un séisme qui a fabriqué quelque chose comme 5 ou 6 mètres de décalage en un coup et qui a fait glisser la faille de 5 ou 6 mètres en une fois. Et si c'est le cas, nous connaissons maintenant la vitesse à peu près de cette faille, c'est de l'ordre de 5 mm par an. Donc vous voyez, 5 mm par an, 1000 ans, ça fait 5 mètres. Donc on peut estimer que le Moyen-Orient sera la proie d'un grand séisme identique
dans
à celui
200 ans.
De 1202 dans les 200 ans qui viennent. Parce qu'il faut savoir aussi que ces mesures que nous sommes capables de faire ne sont pas précises. Les failles ne sont pas des horloges.
Bien sûr.
Je suis en train de développer ici un concept qui est discuté, qui est le concept du séisme à glissement caractéristique. Il y a des tas de modèles de relaxation des tensions à la fin du cycle sismique. Celui-là semble être assez viable. C'est l'idée qu'en un point, un grand séisme produit, en tout cas pendant de longues périodes de temps, reproduit toujours à peu près le même déplacement. D'accord ?
D'accord, oui.
À quelques dizaines de centimètres près. Et donc, si c'est le cas, effectivement, tout ce que je viens de vous dire est quelque chose de correct. Alors, on sait aussi que les failles ont tendance à glisser par salve. C'est-à-dire que quand vous avez un grand séisme sur un segment de la faille, fort heureusement, une faille comme la faille anatolienne ne glisse pas d'un coup. Si vous aviez 1200 km ou 1500 km de faille anatolienne qui glissait d'un coup, ce serait un cataclysme colossal. Comme le magnitude 9.3 qu'on a eu à Sumatra. Heureusement,
oui,
c'est pas le cas général.
En parler.
Et elle glisse par segment. Et donc, quand un segment de faille long de 200-300 km glisse, il transfère des forces plus grandes au segment voisin, et ceci peut déclencher un séisme. Ce qui s'est passé sur la faille nord-anatolienne depuis 1939, avec une séquence, une demi-douzaine de très grands séismes, et on attend le dernier d'ailleurs, les deux derniers en 1999, août et septembre, août et octobre, on attend encore un ou deux grands séismes sous la mer de Marmara, près d'Istanbul. On sait qu'une séquence comparable a brisé toute la faille nord-anatolienne au XVIIe et XVIIIe siècle, entre 1668 et 1776. Donc on est là dans un cas où on a des informations qui sortent à la fois de l'histoire et de la géologie. Le problème maintenant, c'est d'arriver à voir venir ce grand séisme.
De pouvoir les prédire.
Voilà, de pouvoir les prédire. C'est-à-dire d'être capable d'enregistrer avant le séisme des signes
avant-coureurs. C'est les sismographes, par exemple.
Alors, ça peut être les sismographes, mais ça peut être aussi ces techniques de positionnement en utilisant le GPS continu.
Voilà, c'est ce que nous disions dans la deuxième partie de notre émission.
Peut-être qu'un jour, on aura aussi une autre technique, l'interférométrie radar satellitaire, qui permet déjà de commencer à voir bouger des régions entières en temps réel, presque. En tout cas, on sait très bien faire avant et après un séisme. On commence à savoir faire entre deux séismes. Et on peut espérer voir des petites déformations du sol, très faibles, mais qui indiqueraient qu'un séisme se prépare en profondeur. Il faut savoir que, avant qu'une roche casse, on observe toujours en laboratoire une phase de déformation accélérée. Ce sont des déformations très petites, qui se produisent en plus sur la planète Terre en profondeur, donc leur effet en surface est encore plus petit, et ce n'est que très récemment qu'on a peut-être les instruments dont la sensibilité est suffisante pour pouvoir enregistrer ces très petits phénomènes. Donc moi je fais partie des gens qui sont un petit peu, enfin qui sont optimistes et qui pensent que il y a pas de problème insoluble,
et que
les tremblements de terre ne sont pas des catastrophes. Beaucoup de gens ne croient pas à ça. Il faut savoir que certains de nos collègues physiciens rangent les tremblements de terre dans des phénomènes chaotiques avec un peu de déterminisme, enfin chaotiques, genre l'écroulement des tas de sable, les avalanches, etc.
Choses qu'on ne pourra jamais prédire.
Et voilà, et disons, ils disent franchement, écoutez, c'est pas la peine, on pourra jamais prédire les séismes. Mais les séismes se produisent sur des objets qui sont quand même très bien identifiés, qui sont des structures géométriques particulières, qui d'ailleurs ne sont pas des espèces de fissures perdues dans des milieux à trois dimensions, mais qui ont une profondeur fixée, une longueur fixée, des irrégularités géométriques, des coudes, des sauts que l'on peut caractériser avec un certain détail, des segments qui ont leur personnalité de fonctionnement. Il y a toute une richesse de données géologiques qui tendent à montrer que c'est finalement beaucoup plus organisé que ce qu'on peut penser. Donc le vrai problème maintenant, c'est d'arriver à capturer ces signaux précurseurs qui sont très fins. Et pour ça, il faut d'abord arriver à convaincre la communauté que ces signaux existent, ce qui n'est pas encore fait. Hein, on a des signes. Par exemple, on sait qu'au Chili, il y a quelques années, un grand séisme de subduction a été précédé pendant 24 heures, 48 heures, une accélération de la convergence entre plaque Amérique du Sud et plaque Pacifique. Donc on a des indices. Ce sont ces mouvements transitoires, peut-être à court terme, qu'il nous faut voir venir. Il y a peu de régions encore où on a les réseaux d'instruments qui permettent de faire ça. Et il convient d'instrumenter aujourd'hui des régions dans lesquelles on a de bonnes raisons de penser qu'il va se produire un grand séisme dans la décennie, dans les 20 ans qui viennent. Tout le problème est là. Et un gros séisme, parce que c'est hors de question d'identifier les signaux précurseurs de séismes de magnitude inférieure ou égale à 6,
donc
à mon avis.
À terme, pour terminer cette émission, donc à terme, peut-être que dans les 20, 30, 40 années à venir, on pourra prédire, c'est le mot que vous avez employé, prédire des grands séismes comme celui de Sumatra le 26 décembre 2004, celui qui...
Voilà, enfin disons, c'est un mot qui est un peu tabou, les sismologues n'aiment pas employer ce mot. Mais moi je pense que quand on s'attaque à un problème et qu'on décide, je pense que c'est un problème qui devrait être soluble, en tout cas, en ce qui concerne les très grands séismes, c'est-à-dire les plus meurtriers, mais ceux dont on peut espérer aussi qu'ils ont la phase de préparation la plus forte, la plus puissante, la plus longue.
La plus longue, surtout.
Et peut-être la plus mesurable, voilà. Mais il nous manque, on a beaucoup de travail à faire, depuis l'enregistrement de signaux précurseurs qui convaincront tout le monde, jusqu'à une théorie qui lie ces signaux à la taille et à la date future du séisme qui se prépare. Et c'est pas de la tarte.
Alors, pour terminer cette émission, puisque nous devons terminer, juste pouvez-vous nous dire deux mots sur l'Institut de physique du Globe à Paris ? Qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont les actions ? Avec qui vous travaillez ? Très rapidement.
Bon, l'Institut de physique du Globe, c'est, je crois, l'une des plus grosses institutions en géologie, géophysique, géochimie en France. Donc c'est un grand établissement qui était autrefois constitué de 7 UMR différentes, donc c'est des unités mixtes de recherche associées au CNRS. J'étais le directeur pendant 12 ans, j'ai été le directeur d'une d'entre elles, l'équipe de tectonique mécanique de la lithosphère, il y en a d'autres, une équipe d'études de la dynamique des fluides géophysiques, il y a un gros labo de sismologie, un autre de géochimie, cosmologie, magnétisme, géomagnétisme, et d'autres encore. Maintenant c'est devenu un institut unique, oui. Donc avec un seul directeur, Vincent Courtillot, vous connaissez
bien sûr, qui est venu faire une émission ici avec vous.
Et donc
ce sont des équipes très actives.
Ce sont des équipes qui sont assez actives, oui, très actives.
Qui sont sur le terrain,
dire,
pour le coup.
Qui sont sur le terrain. Par exemple, je vous parle de ces problèmes de prévision des séismes. Nous avons plusieurs projets au Chili, sur une grande faille décrochante en Chine, dans le Kunlun, qui s'adressent directement à ces problèmes. C'est un institut aussi qui gère des observatoires. Nous en avons deux aux Antilles, un à La Réunion, dont la mission est de surveiller les volcans actifs, d'essayer de voir venir les éruptions, mais plus récemment aussi d'essayer de comprendre la déformation sismique de l'arc des Antilles, par exemple, qui est, vous savez, en France, l'une de nos préoccupations principales, parce que c'est la seule région...
Oui, puisque nous, en France, mis à part dans les dom-toms, l'activité sismique est quand même...
Dans l'Hexagone, il y a un ou deux magnitudes 6 par siècle, et il y a eu en tout 3 séismes dont on peut penser qu'ils ont dépassé la magnitude 7, au large de la Côte d'Azur en 1887, un près du point triple suisse Allemagne-France, Bâle-Mulhouse en 1354, un autre en 1428 dans les Pyrénées. Mais l'Hexagone n'est pas une région très sismique. Par contre, les Antilles, là, les îles sont assises sur une frontière de plaques qui bouge à 2 cm par an, dont on ne connaît l'histoire que depuis vaguement, assez vaguement encore, depuis l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. Et nous ne sommes pas sûrs. Nous ne sommes pas certains de la taille des séismes que peut produire cette zone de subduction. Pourrait-on avoir, par exemple, un très grand séisme qui brise d'un coup toute la partie nord de l'arc, ou la partie nord et la partie sud de l'arc, ce qui porterait la taille de ce séisme à une taille comparable à celle de celui de Sumatra? Certainement, un séisme comme ça, vu la vitesse de centimètres par an, ne se reproduirait que très rarement. Ça pourrait être tous les 1000 ans ou tous les 2000 ans. Bon, on ne sait rien de tout ça.
Voilà, il est surveillé par
les
équipes de
l'Institut de physique du Globe. Malheureusement, si vous voulez, on est en train de développer un réseau de stations GPS à l'échelle de l'archipel, en collaboration, nous vous l'espérons, avec... c'est compliqué les Antilles, il y a les Anglais, les îles indépendantes, etc. Donc, il faut établir une collaboration internationale. Il y a des îles qui sont petites par rapport à la surface à surveiller. Une grande partie du territoire est sous l'eau. Donc, il faut développer des moyens instrumentaux sous-marins permanents, ce qui est très difficile. Des OBS, par exemple, des sismographes fond de mer. Le GPS, c'est pas encore sous-marin, ça marche pas. Les Japonais travaillent fort là-dessus, mais on n'a pas de technique actuelle. Si on veut enregistrer en permanence, de façon continue, il faut câbler ça jusqu'à terre, c'est des coûts prohibitifs. Donc vous voyez, on n'est pas encore rendu, mais les volcans, ça marche à peu près, les grands séismes, on est loin du compte.
Eh bien, merci Paul Taponnier de nous avoir éclairé sur le sujet de la déformation et du déplacement des continents. Je rappelle donc que vous êtes géophysicien et géologue à l'Institut de physique du Globe de Paris et nous renvoyons nos auditeurs à aller faire un tour sur le site internet de l'IPGP. Merci de nous avoir suivis, au revoir et à très bientôt.
Au revoir.